VOA Afrique, les infos. À Washington.
Voilà, dans quelques instants, vous aurez l'émission Sahel Plus et c'est avec Jean-Roger Bion. Mais tout de suite, faisons le tour de l'actualité. Le chef de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a été renvoyé après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par les casques bleus. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le diplomate sénégalais Babacar Gueye a remis sa démission à ma demande, a déclaré M. Ban à des journalistes à New York. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé la nomination de l'Afghan Farid Zarif comme son représentant spécial pour le Libéria. Il succédera à Mme Karine Langren de la Suède qui a terminé sa mission en juillet 2015. Le président en exercice de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État gabonais Ali Bongo, a signé un décret pour prolonger la transition politique en RCA du 10 août au 30 décembre 2015. Une décision pour assurer les autorités de Bangui qui font face à diverses contestations. Plus de détails avec vous, Jacques Aristide.
La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans les milieux politiques et de la société civile qui estiment que la transition a trop duré en Centrafrique. Certains ont même réclamé la démission de la présidente Catherine Samba-Panza et des deux autres têtes de la transition, reprochant de tirer profit de la situation, accusations qui ont été immédiatement rejetées. Dans son communiqué, le secrétariat général de la CEAC estime nécessaire le report de la fin de la transition afin de permettre à l'actuel gouvernement d'organiser les élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes. Il souligne que cette décision est conforme au communiqué final de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue à N'Djamena le 25 mai dernier, autorisant cette prorogation. Les scrutins, initialement prévus en juillet dernier, étaient impossibles à tenir en raison du manque d'organisation, de matériel électoral et de l'insécurité persistante, d'après les autorités de la transition. Un émissaire du secrétaire général de la CEAC se rendra à Bangui d'ici la fin de la semaine pour rencontrer les dirigeants intérimaires du pays.
L'ONU monte au créneau en République démocratique du Congo. Elle appelle à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires, estimant qu'elles nuisent à la crédibilité du processus électoral. Mardi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'était dit très préoccupé par la disparition depuis samedi à Kinshasa de Bienvenu Matumo, l'un des militants les plus actifs du mouvement Lutte pour le changement, Lucha. Au Burundi, la semaine dernière, la nouvelle Assemblée nationale, issue d'un scrutin controversé et boycotté par l'opposition et la société civile, jugée non crédible par l'ONU, a supprimé les quotas assurant l'équilibre ethnique et de genre dans son bureau. La communauté internationale décrit une crise burundaise qui met en péril l'économie et menace la stabilité régionale.
Des envoyés spéciaux de plusieurs puissances occidentales et des organisations internationales, dont l'ONU et l'Union africaine, ont préféré s'exprimer d'une même voix. Dans un communiqué conjoint, ils estiment que le régime de Bujumbura ne peut pas se permettre de continuer à plonger le pays dans l'instabilité, la division, le déclin économique extrême et la crise humanitaire. Déjà, l'une des économies les plus fragiles dans le monde, l'économie du Burundi a chuté encore ces derniers mois et montre peu de signes qu'il peut récupérer en l'absence d'une résolution de la crise politique. Les bailleurs de fonds ont clairement indiqué que leur volonté de continuer à collaborer avec le gouvernement de Bujumbura est conditionnée des progrès vers le rétablissement de références démocratiques du pays à travers un dialogue sérieux et inclusif, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. La crise continue à se répandre dans les pays voisins de la région avec plus de 200 000 réfugiés, ont précisé les envoyés spéciaux. Ils appellent immédiatement au dialogue avec le soutien de l'East African Community, de l'Union africaine et de l'ONU en vue de forger une nouvelle voie pour le Burundi.
Voilà, c'était des précisions d'Éric Manirakiza. Le président tchadien affirme que Boko Haram est décapité. Idriss Déby estime que le défi est maintenant d'éviter les actions terroristes dans la région du lac Tchad. Nicolas Pinault.
Oui, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Idriss Déby a affirmé que Boko Haram n'était aujourd'hui constitué que de petits groupes éparpillés dans l'est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Le président tchadien assure que les différentes armées de la région sont en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram. Mieux, Idriss Déby assure que la guerre contre Boko Haram sera terminée d'ici la fin de l'année grâce à l'action de la force mixte composée de soldats du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin. Le chef de l'État a également évoqué pour la première fois un successeur d'Aboubakar Shekau, présenté jusqu'alors comme le chef du groupe et qui n'est plus apparu sur les vidéos de propagande de Boko Haram depuis plusieurs mois. Il y a quelqu'un qui s'appellerait Mahamat Daoud et ce dernier veut négocier avec le gouvernement nigérian. Moi, je conseillerais de ne pas dialoguer avec un terroriste, a affirmé Idriss Déby sans fournir davantage de détails. Affaiblis, les djihadistes ont néanmoins réussi à multiplier ces dernières semaines les attentats suicides meurtriers au Nigeria, au Cameroun et au Tchad.
Les États-Unis ont fermement condamné l'attentat perpétré hier sur un marché bondé dans l'état de Borno au Nigeria. L'attaque qui a tué au moins 47 morts. Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État, John Kirby, note que l'attaque a eu lieu dans une région où Boko Haram a tué des centaines de personnes au cours des dernières semaines. En Libye, le premier ministre du gouvernement, reconnu par la communauté internationale, a déclaré hier qu'il démissionnerait si cela venait à être exigé par le peuple. Abdullah Al-Thini venait de subir, lors d'une interview télévisée, des critiques acerbes des téléspectateurs mécontents des services du gouvernement. Pendant ce temps, à Genève, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye exhorte les factions belligérantes du pays à se mettre d'accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale d'ici la fin du mois. Et puis sur le plan sanitaire, le continent africain célèbre aujourd'hui une année sans nouveaux cas de poliomyélite. Selon l'ONU, c'est une étape importante, mais pas finale, vers l'éradication à l'échelle planétaire de cette maladie hautement contagieuse, incurable et invalidante et parfois même mortelle. Selon l'AFP, le dernier cas de polio en Afrique avait été enregistré le 11 août 2014 en Somalie, un pays alors frappé par une grave épidémie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, l'organisation État islamique affirme avoir décapité le jeune croate travaillant pour une compagnie française enlevée en Égypte il y a 3 semaines. C'est en tout cas ce qui ressort d'une photo postée sur les sites djihadistes. Les détails avec vous, Saloua Diafari.
Si ce meurtre est confirmé, Tomislav Salopek serait le premier occidental exécuté en Égypte. 31 ans, père de 2 enfants. Il travaillait comme analyste sismique depuis quelques mois pour une société française. C'était son dernier jour de travail quand il a été enlevé. Les ravisseurs ont posté sur un compte Twitter une photo montrant le cadavre d'un homme, un drapeau de l'État islamique et un poignard planté dans le sable. Ils affirment qu'il s'agit de Salopek. Vendredi dernier, la branche égyptienne de l'État islamique dans la province du Sinaï avait menacé de le tuer dans les 48 heures si le Caire ne libérait pas les femmes musulmanes emprisonnées en Égypte. Le Caire a pourtant engagé une vaste campagne militaire contre le groupe terroriste de plus en plus actif dans le désert égyptien.
Plus de 60 personnes sont portées disparues dans le nord de la Chine après un glissement de terrain sur un site d'une compagnie minière. C'est ce que rapporte l'agence chinoise Xinhua, citée par l'agence France Presse. Un responsable du gouvernement municipal a expliqué que le glissement de terrain survenu peu après minuit a enseveli 15 dortoirs occupés par les employés de ce site minier à Changluo. La Chine donc qui a baissé la valeur de sa monnaie pour la 2e journée consécutive. Hier, cette chute du yuan avait secoué les marchés mondiaux et cela pourrait accroître les tensions entre les concurrents commerciaux de Pékin. Aujourd'hui, la valeur du yuan a diminué de 1,6% après une chute de près de 2% ce mardi, ce qui était sa plus forte baisse en une seule journée. Dans une décennie, la Banque centrale de Chine, qui contrôle strictement la monnaie, a décrit cette chute comme étant temporaire et destinée à rendre la valeur du yuan plus orientée vers le marché. La Grèce devrait retomber nettement en récession cette année et l'an prochain, selon des sources européennes citées par l'AFP. L'économie grecque, qui n'a émergé qu'en 2014 d'une longue période de 6 ans de récession, devrait avoir son produit intérieur brut replongé de 2,3% en 2015 et de 1,3% en 2016. Selon ces mêmes sources citées par l'AFP, le pays va devoir mettre en œuvre un difficile programme de réforme en échange d'une nouvelle aide internationale. Place maintenant à Jean-Roger Bion pour Sahel Plus.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.